Bah voilà, on va s'intéresser à l'ensemble des stands qui vous sont proposés dans ce marché de Noël spécial Festisol, Festival des Solidarités, etc., etc. Enfin, vous connaissez le principe maintenant. Je reçois autour de cette table deux personnes qui sont juste en face de moi, qui vont se présenter, tout simplement. Bonjour.
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 Comment ça va?
Très bien.
Très bien.
Froidement, comment
vous...
ça va.
Ouais, fraîchement, ouais. On est au frais. Comment vous appelez-vous? Je sais qu'il doit y avoir un Adrien à ma gauche,
oui,
je crois.
C'est moi, ouais.
Et un
Aurélien.
Un Aurélien, ouais. En face de moi et qui représente l'association Rainbow & Co. Avec un jeu de mots, Co,
ouais.
C-A-U-X,
C-A-U-X,
pays Co, Rainbow, les couleurs de l'arc-en-ciel, si ça vous dit rien, c'est que bah, en ce moment, l'arc-en-ciel est de plus en plus représentatif de la communauté LGBTQIA+, avec justement ce que ça comporte de diversité. On va parler justement de cette association qui est toute fraîche.
Toute fraîche, cette année, au mois de février. Alors, on l'a pensé l'année dernière en allant à la première Pride du Havre.
Oui.
Qui était déjà assez incroyable parce qu'une ville comme le Havre fasse sa première Pride au mois de, en 2022, ça nous paraissait incroyable. Et on s'est dit en rigolant, pourquoi pas nous à Fécamp l'année prochaine. Et on s'est pris un petit peu au jeu et aux mots. Et donc, du coup, on l'a fait cette année. On a créé la page Facebook Rainbow & Co. en 2022, février 2022, et on a fait notre première Pride à Fécamp, au mois de juin, le 11 juin.
La marche des fiertés, donc.
La marche des fiertés.
Avec, bah, justement, simplement pour dire que c'est pas qu'une question de mégapole ou de grosses communes, que bah, y en a jusque dans la campagne, en fait. C'est pas juste un phénomène.
Exactement, c'est ça.
Citadin, finalement. Enfin, c'est tout le monde est concerné.
Exactement. Et en fait, nous, notre but, c'était vraiment d'être présent dans les villes moyennes et ces zones rurales. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de petites villes ou de villes moyennes. Qui font, par exemple cette année ça a été un record de Pride dans les petites villes.
Ah ouais.
Dans les villes de moins de 50 000 habitants. Mmh. Y a eu une explosion de Pride qui s'était jamais fait, et notamment de première Pride, et on a été notamment dans certains médias de la communauté, mais pas que, en publicité.
Alors, qu'est-ce que vous proposez en termes, parce que j'imagine qu'il y a de l'écoute, de la parole, de l'échange, etc. Ouais. Parce que bah, forcément, il y en a qui vivent très très bien leur sexualité, leur identité, et puis il y en a d'autres pour qui c'est très difficile, ouais. Ne serait-ce que par rapport à la famille, d'entrée de jeu,
ou
la société en général. Et donc, on ne sait pas à qui parler, même si on se confie à notre meilleur pote, c'est pas forcément la meilleure oreille non plus.
Non plus.
Donc,
ça peut être dangereux aussi, ça dépend des personnes.
C'est ça.
Et on
puis,
s'adresse.
On ne peut pas forcément parler de ça sur les réseaux non plus, sans se faire soit bâcher, soit encenser. C'est très, très scindé. C'est très, là, pour le coup, il y a une polarité terrible.
Oui.
C'est soit du plus, soit du moins, mais il n'y a pas d'entre-deux.
Ouais. Après, sur les réseaux, on dit et on redit, et moi je le fais personnellement, il faut rappeler quotidiennement la loi. C'est-à-dire que dire son homophobie ou sa transphobie, c'est pas une liberté d'expression, c'est un délit. Un délit puni par la loi, 3 ans d'emprisonnement, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, et 45 000 euros d'amende pour les personnes lambda. Pour les agents publics, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C'est un délit, ce n'est pas une liberté d'expression.
Mmh.
Donc voilà, il faut le redire sans cesse sur l'espace public, mais aussi privé, de le rappeler que ce n'est pas une liberté d'expression, c'est un délit. Et je crois qu'on ne le répétera jamais assez.
Eh ben, en tout cas, c'est dit et redit sur ce coup-là. Alors, au-delà de ça, donc, comme je le disais, où est-ce qu'on peut vous trouver du coup pour qu'on puisse parler, tout simplement? Ouais.
Alors, pour le moment, on est un collectif. On est en passe de devenir une association, là, très, très, très prochainement. Alors, les papiers sont à la préfecture. On a créé la page Facebook. Et moi, je m'occupe de la page Facebook. Et Adrien s'occupe de la page d'Instagram. On a créé, là, au mois de novembre, la page d'Instagram. Donc, on peut nous contacter via ces deux réseaux sociaux. On espère très prochainement. En fait, notre but, c'est d'avoir un local sur Fécamp. pour pouvoir permettre aux personnes concernées, mais aussi à la famille, aux amis, aux collègues, de venir parler, de venir échanger, de faire des ateliers d'écoute, mais pas que, aussi faire des ateliers divers et variés sur les arts, etc., pour créer du lien, pour créer de la communication, pour faire venir aussi d'autres associations, par exemple de prévention, refaire venir le Cégid qui a disparu de Fécamp il y a quelques années. Donc le refaire venir une fois tous les deux mois pour faire venir dépister les gens et pour tout le monde. Hein,
oui, parce que ça, alors c'est pas que c'est là où je voulais en venir, c'est pas que de l'écoute, c'est pas que de l'information, c'est aussi de la prévention.
Exactement.
Il y a vraiment, vous avez tissé une toile vraiment assez large sur l'ensemble des actions que vous souhaitez mener dans leur ensemble.
Et on lutte contre toute forme de discrimination. Alors évidemment, on est spécialisé dans les discriminations LGBTQIA+, mais pas que. On lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Et en ce moment, c'est le cas. Et aussi contre le sexisme. Nous avons participé à la marche des violences faites aux femmes, enfin contre la violence faite aux femmes, le 25 novembre. Nous l'avons fait l'année dernière à titre individuel et nous l'avons fait cette année au nom du collectif. Donc en fait, toutes les parce qu'en fait, la racine des discriminations est la même. C'est l'ignorance et donc, du coup, la haine des autres.
Alors, justement, dans les activités proposées à travers l'art, à travers justement tout ce processus de création, on s'aperçoit effectivement, comme tu le soulignes, que l'homophobie, enfin, ou en tout cas les phobies en général, viennent d'une inculture finalement.
Total. Ignorance, peur, fausse croyance, habitude, de la norme sociale, parce qu'en fait, avant tout, ces discriminations-là sont issues d'une norme sociale inculquée par nos éducations, on va dire, mais qui ne sont pas remises en cause, qui ne sont pas détricotées. Parfois, il faut détricoter certaines habitudes qui ne sont absolument pas au goût du jour, en fait, et qui sont totalement injustes, totalement violentes, totalement...
On entend des chiffres en plus qui sont alarmants. On parlait de prévention tout à l'heure par rapport au HIV, choses comme ça. C'est incroyable. On a l'impression, moi j'ai bientôt 50 ans, on a l'impression de revivre dans les années 80 où on a des a priori sur les personnes qui sont atteintes du sida. Moi je l'embrasse pas.
C'est
complètement fou. Il y a un boulot à refaire en fait.
C'est un de mes sujets aussi. Moi, je veux présenter une conférence sur la sérophobie. Notamment sur le VIH, mais sur la sérophobie, il y a un travail considérable à faire, que ça soit dans le milieu médical, mais pas que, dans tout milieu, dans toute la population. La sérophobie, il faut l'expliquer parce que là, hier, c'était le 1er décembre et c'est le SIDA Action. C'est le mois du entre guillemets de lutte contre le SIDA. Et il faut rappeler que quand on est indétectable, on est intransmissible. C'est-à-dire que quand on est indétectable, on ne transmet pas le virus. La science a évolué de façon considérable, qui fait que les personnes qui sont atteintes par l'infection du VIH et non SIDA, là aussi il faut faire une différence entre SIDA et VIH. Le VIH et le SIDA, ce ne sont pas la même chose. Le VIH, c'est une infection. Le SIDA, on est vraiment dans une phase, dans la phase terminale du VIH, c'est quand on n'est pas soigné. Donc SIDA et VIH, c'est deux choses totalement différentes. Et donc le VIH est traité, et de façon très 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 bien en France notamment, avec un médicament qui fait que la charge virale est abaissée à zéro. C'est-à-dire qu'une charge indétectable fait que la personne ne peut plus le transmettre ni à un enfant, éventuellement quand la femme est enceinte, ni à son partenaire, c'est-à-dire qu'il peut avoir des rapports sexuels non protégés quand il est quand il a son médicament, évidemment.
Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est justement pour ça que c'est très important de souligner ces mots-là, etc. 40 ans, triste anniversaire, justement, de cette découverte. Mais, comme tu le disais aussi, les progrès ont... Enfin, il y a eu énormément de progrès.
Considérablement
de progrès. Après, c'est toujours ce souci de manque d'informations. Justement, rapprochez-vous de Rainbow & Co. Allez voir sur les réseaux sociaux, les Insta, les Facebook, pour voir un petit peu les... publications qui s'y font, et puis rentrer en contact directement si vous avez si vous subodorez que votre enfant est harcelé à l'école
aussi.
Les choses comme ça peut commencer juste par ça, parce que voilà, il se sent différent ou il est montré différemment du doigt, de par une identité qui lui est propre. Voilà, ça commence par ça.
Il faut rappeler, en 2022, un rapport de SOS Homophobie qui a précisé qu'il y a eu 28% de hausse de violence physique, notamment sur les personnes LGBT. Il y a 55% des personnes LGBT qui ont subi au cours de leur vie des violences, soit verbales, soit physiques, c'est-à-dire plus d'un sur deux. Mmh. Et que, par exemple, les personnes LGBT, les personnes notamment homosexuelles, ont 4 fois plus de risques de suicider, et les personnes transgenres ont 7 fois plus de risques de se suicider.
Alors, juste une dernière question avant qu'on vous relâche pour justement continuer d'informer les gens qui viennent à votre stand. Est-ce que, et là je vais me faire un peu l'avocat du diable pour le coup, est-ce que c'est pas... est-ce qu'on perd pas les gens au bout d'un moment avec toutes ces lettres qui se suivent LGBTQIA et le plus qui en rajoute derrière parce qu'il y aurait... presque pas assez de place pour les citer toutes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de réflexion justement qu'on peut vous faire régulièrement, je pense.
Oui, on nous le dit souvent. Il y a beaucoup trop de lettres, mais après c'est nous. Chacun a son identité propre. Et je pense que c'est aussi une façon de tolérer chacun et chacune.
En fait, la question sous-jacente à ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de différences? Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne joue pas trop sur ce... je fais partie de ça. Il y en a combien de fois, sous couvert d'humour, on dit mais moi, je me sens plus chaise qu'autre chose. Donc bon, ça, vous l'avez dû l'entendre. Mais je préfère le mettre à plat. Et puis au moins, comme ça, on y répond une bonne fois pour toutes.
C'est ça, on ressemble tout sauf à une chaise ou un meuble ou un animal. LGBT, en fait, on est tous différents de toute façon, quelle que soit notre sexualité ou non, parce que
c'est pas qu'une question de sexe.
De transidentité ne correspond pas à une sexualité.
C'est
donc, il y a des lettres là-dedans et qui ne correspondent pas à une sexualité.
Et c'est pour ça que ça perd. J'ai l'impression le public. Comme tu le dis, on est tous différents.
Oui.
Et finalement, notre identité à nous. Il faut la défendre, donc on peut aussi passer par ces choses-là.
Après, c'est un regroupement effectivement de lettres, de personnes différentes, et donc du coup, c'est aussi pour dire nous sommes différents, mais nous sommes discriminés. C'est aussi parce qu'on est discriminé qu'on est beaucoup plus vulnérable, et c'est en étant ensemble qu'en fait on est plus fort. Parce que dans ces lettres de ce sigle LGBTQIA+, beaucoup sont discriminés ou se sont absolument pas compris, et donc du coup reçoivent de la violence, soit verbale, soit psychologique, etc. Et c'est en se réunissant dans un sigle, alors effectivement ça fait beaucoup de lettres, qu'en fait on se sent plus fort et on se sent moins seul, surtout parce qu'il y a une solitude terrible.
Un exemple que j'ai envie de citer justement pour vulgariser un petit peu le propos, ça peut très bien s'appliquer par exemple à des personnes qui ne se retrouvent absolument pas dans ce qu'on appelle la masculinité toxique, à savoir l'image de l'homme comme elle devrait être, comme on la voit dans les pubs, dans les films ou dans les séries, de l'homme fort qui ne pleure pas, qui est un bon père de famille, etc. etc. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus sensibles, qui lisent des bouquins, qui vont au théâtre, qui font de la danse et qui sont hétéros ou autres, peu importe, mais voilà, qui ne se retrouvent pas dans l'image qui est véhiculée de l'homme parfait.
C'est la base base même de la discrimination. Voilà. C'est la racine de la discrimination.
On n'est pas obligé tous d'aimer le foot et d'aimer les bagnoles.
Accepter votre sensibilité.
Voilà.
C'est ça. Exactement.
Libérez-la.
Ouais, oui.
Non, mais le problème, c'est effectivement, on lutte, mais que ce soit le sexisme ou le racisme ou toute autre discrimination, fait que la racine du problème, c'est une société, on va dire, patriarcale, j'ai pas peur du mot, patriarcale, mais patriarcale d'une toxicité, d'une virilité toxique.
Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire par là, et ce qui rejoint le propos que je dis, c'est on parle pas forcément du patriarcat du côté du féminisme, mais on parle aussi du patriarcat du côté de comment il a modélisé les hommes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut mettre, qui est important de soulever.
Le féminisme est une juste une réaction justement patriarcale. Hein.
C'est ça. Et à côté de ça, ça veut pas dire qu'on rejette les gens qui font du foot ou qui aiment bien faire du tuning.
Mais
c'est pas un problème.
C'est pas lutter contre les hommes. C'est lutter contre une virilité toxique.
Mmh.
Qui est préjudiciable pour une grosse partie de la population, la moitié notamment d'entre elles, c'est-à-dire les femmes, et ensuite une des minorités dont nous faisons partie et qui sont constamment menacées, constamment violentées, meurtries. Il y a beaucoup de meurtres et de violences. L'année dernière, 184 personnes ont été violentées ou assassinées en France, c'est-à-dire une personne tous les deux jours.
C'est énorme.
Alors, les sujets, les débats sont passionnés, passionnants. Contactez Rainbow & Co, allez voir les Facebook, les Instagram. Il y aura une conférence, on peut l'annoncer d'entrée de jeu. C'est le 8 décembre à la MJC, ici même.
Vendredi prochain.
Vendredi.
Sur la transidentité.
Sur la transidentité, une conférence qui sera menée par toi.
Oui, exactement. Et la transidentité, évidemment, engendre la question du genre.
Donc venez débattre, venez y réfléchir, venez parler tous ensemble, rien que de vous intéresser. Ouvrez-vous déjà un peu aux choses. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à toi.
Et puis au plaisir de vous retrouver prochainement, je pense, sur Radar, sait-on jamais.
Ouais, merci. Mais
je pense qu'il y aura des occasions. À bientôt en tout cas.
Bientôt,
salut.
À bientôt.